Votre santé vous préoccupe ? Vous souhaitez vous informer sur une pathologie ? Avoir des conseils d'hygiène de vie ? Connaître les dernières avancées scientifiques ? Écoutez Questions de santé, un programme Maurice Clément Fèvre, une émission Sébastien Chauveau. On ne sait pas toujours comment le qualifier. Il n'est pas nécessairement compris des collègues, des employeurs et des amis. C'est pourtant un mal bien connu des entreprises. On peut même dire qu'il est fréquent. Je veux parler du syndrome d'épuisement, plus communément appelé burn-out. C'est de lui que nous parlons dans ce numéro de Questions de santé. Il se conjugue un peu à toutes les sauces. On le dit tantôt au travail, tantôt à la maison, tantôt au sport. Il faut avoir à l'esprit que c'est initialement dans le milieu de l'entreprise que le burn-out a été diagnostiqué. C'est là qu'il est le plus présent. Le terme de burn-out nous vient des États-Unis. On parle de ce syndrome depuis les années 1950 en France. Mais c'est vraiment en 1969 que Loretta Bradley, professeure et coordinatrice des conseillers d'éducation de l'Université technique du Texas, évoque le stress professionnel par le travail. Ainsi est né le burn-out. Les premières études psychologiques du phénomène datent des années 1970. L'Organisation mondiale de la santé définit le burn-out comme une fatigue intense, une perte de contrôle et une incapacité à aboutir à des résultats au travail. Plus exactement, le burn-out est une situation de mal-être physique et mental qui est liée à un quotidien professionnel. C'est un syndrome d'épuisement émotionnel dans lequel on aboutit à une réduction de l'accomplissement personnel au travail, explique Cécilia Delage, psychologue.
Question de santé.
Sur le plan mental, le burn-out s'exprime par une souffrance psychique, par quelque chose que l'on n'arrive plus à gérer psychologiquement, dit la professionnelle. Cela se traduit par de l'irritabilité, de la colère, de la violence parfois, des pleurs, de la démotivation constante, de l'isolement, de la perte de confiance, du sentiment d'échec, de la frustration, de la confusion, de l'anxiété, de la perte de mémoire et de concentration. Tout cela peut amener à de la dépression. Il découle de ces symptômes psychiques des conséquences physiques. Les signes physiques peuvent apparaître insignifiants au départ, mais ils s'installent progressivement. Au fur et à mesure du temps, les signes cliniques deviennent plus présents, jusqu'à ce que la goutte fasse déborder le vase, que les symptômes physiques causent des troubles graves, comme des crises d'angoisse. Ce sont souvent eux qui nous mettent sur la voie du burn-out, reconnaît Cécilia Delage. Ils se remarquent par de la fatigue physique, des douleurs musculaires, des maux de tête et des troubles digestifs, voire respiratoires, un sommeil perturbé, une inflammation de la peau, de l'eczéma entre autres, une perte ou une prise de poids. Dans les cas les plus graves, le burn-out peut conduire jusqu'aux troubles cardiaques. Ce que l'on peut dire, c'est que le burn-out est un mal-être de son corps et de sa tête, qu'il n'y a pas de moment précis où il se déclenche. Certains sentent les choses venir et font ce qu'il faut à temps. D'autres laissent courir ou ne les voient pas venir jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. C'est là qu'il faut aller voir le médecin, mais avant si possible. Car plus tôt sont mis en place les traitements et les mesures d'accompagnement, moins de temps dure le burn-out. Ce qui domine dans cette pathologie, c'est l'état de stress. Ce stress est majoritairement professionnel, mais il peut être multifactoriel. Il peut venir de différents horizons, de différentes branches de vie personnelle, insiste la psychologue. Au travail, le stress peut avoir plusieurs raisons. On a tous à l'idée la pression exercée par la hiérarchie. Mais il y a d'autres facteurs. On trouve fréquemment les délais à respecter, le cadencement, le harcèlement, la surcharge de travail, l'impossibilité de déléguer. Il y a d'autres causes, plus sournoises celles-là. C'est le cas de l'hyper-exigence envers soi ou constamment se montrer sous son meilleur jour. Lorsqu'aux responsabilités professionnelles s'ajoute l'hyperconnexion, les charges familiales, voire associatives, on trouve un cumul de facteurs de stress qui ne font qu'accroître le burn-out. Comme il s'agit d'un stress au travail, on peut penser que le burn-out n'atteint que les salariés. C'est ce qu'a longtemps pensé l'OMS. L'organisme croyait même qu'il n'y avait qu'une catégorie de travailleurs qui était concernée par cette pathologie, à savoir les médecins et les infirmiers, les travailleurs sociaux, les enseignants, certains corps d'armée. Parce qu'il y a un fort engagement émotionnel et un investissement total de leur part, souligne Cécilia Delage. Les choses ont changé et le regard de l'Organisme mondial de la santé sur le burn-out aussi. Les scientifiques s'accordent à présent à penser que tout le monde peut être concerné par cette pathologie et que les hommes sont autant concernés que les femmes. Il n'y a pas non plus de catégorie d'âge qui est plus à risque qu'une autre de connaître le burn-out. Il peut concerner les lycéens comme les personnes âgées. Il est difficile de savoir combien de personnes sont touchées par le burn-out et combien le sont chaque année dans notre pays. Ce que rapporte une étude de la CFDT, réalisée en 2017, c'est que 36% des salariés français ont déjà contracté un burn-out. C'est un compatriote sur trois, fait remarquer la psychologue. C'est important, ajoute-t-elle. Bien que ce soit une maladie du travail, le burn-out n'est pas considéré par nos instances comme une maladie professionnelle. C'est la raison pour laquelle il est difficile de quantifier les personnes qui sont atteintes par ce syndrome dans notre pays. Mais au dire des professionnels, psychologues et psychiatres notamment, qui sont de plus en plus sollicités pour ce mal-être, le nombre de personnes atteintes de burn-out ne cesse de croître en France. Heureusement, le burn-out n'est plus un sujet tabou. Il ne fait plus peur. Il commence à être pris en considération par les entreprises et les directions des ressources humaines. Il y a des entreprises qui mettent en place des actions de bien-être au travail. Du goût de Cécilia Delage, elles sont encore trop rares. Il faut en plus qu'elles s'inscrivent dans la durée, pas qu'elles soient ponctuelles. Sans quoi, elles ne servent pas à grand-chose, car le stress du burn-out n'est pas ponctuel mais chronique, insiste-t-elle. Quand le burn-out est diagnostiqué, il n'y a pas de temps pour le traiter. Cela dépend des gens, mais surtout depuis combien de temps il est installé, explique la psychologue. Certaines personnes s'en remettent en quelques mois, quand il faut plusieurs années à d'autres. Pour traiter le burn-out, il faut d'abord en prendre conscience. Il faut passer l'idée du seul surmenage. Le burn-out est beaucoup plus que cela. La première démarche est d'en parler, de faire état de son mal-être. Il faut l'évoquer aux collègues, si l'ambiance avec eux est bonne. Il faut, si possible, essayer de trouver des solutions d'aménagement du travail. Lorsque le cas est plus grave, que le burn-out est ancré, il faut envisager l'arrêt de travail. Cela veut dire se tourner vers un médecin. Il faut sortir du contexte qui est lié au stress émotionnel, commente Cécilia Delage. Parallèlement, il faut entamer une thérapie avec un psychiatre ou un psychologue. Dans le burn-out, on perd le sentiment de soi-même. On a l'impression de ne plus contrôler les situations. C'est une dépersonnalisation qui est associée à une perte de confiance. C'est tout cela qu'il faut reconstruire. On peut avoir recours au traitement pour soigner le burn-out. Il s'agit principalement d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Cela ne doit pas être le premier réflexe, pense Cécilia Delage, tout en reconnaissant que le burn-out est parfois si installé que les médicaments sont le premier traitement. Certains avancent que l'emploi de vitamines et de minéraux peut aider à passer la période de burn-out. Ces allégations manquent de crédit scientifique. Dans tous les cas, ces compléments doivent être pris sous contrôle médical, prévient la psychologue. Cela peut aider, mais cela ne résout pas le burn-out, ajoute-t-elle. On n'est jamais totalement guéri d'un burn-out. On en garde toujours une cicatrice, dit Cécilia Delage. Une cicatrice qui, en principe, est un signal d'alarme pour ne pas chuter. D'où cet avertissement des spécialistes qui rappelle que les mêmes causes produisent les mêmes effets, que le burn-out guette davantage ceux qui l'ont contracté que ceux qui ne l'ont pas connu. Pour l'éviter, les deux règles sont de mettre le travail à sa juste place, en clair de ne pas lui donner plus d'importance qu'il n'en a, et de prendre du temps pour soi en pratiquant une activité divertissante. La vie personnelle est comme un arbre avec plusieurs branches. Il faut prendre soin de chaque branche parce qu'elles sont toutes importantes. Ne pas en prendre soin fait courir le risque que des branches tombent et que l'arbre vacille. À bientôt pour un nouveau numéro de Questions de santé. Vous venez d'écouter Questions de santé, un programme Maurice Clément Fèvre, une émission Sébastien Chauveau.